Est-ce que pour la rediff, on devrait pas lancer un Audacity?
Non, parce que de toute façon, chiant.
Donc non, on est d'accord que je dois monter le podcast à partir du live.
Oui, tout à fait.
Ok, bah le son sera tout dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais...
Ah bah oui, mais de toute façon, c'est pas très très grave ça.
J'aimerais être un flan.
Rien que d'y penser, ça fait rêver.
Bonsoir Curien.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Ben ça va, je suis prêt. On m'appelle Régis ce soir, puisque je serai à la régie. Voilà.
Il est un peu à la régie, c'est lui qui va balancer les questions qu'on va lancer. Mais en tout cas, déjà, bonjour Goodcar, bonjour Picamox, bonjour Valar, bonjour Antou Lucas, bonjour Sunny, bonjour The Valarette, bonjour Lolo Chips, bonjour le Fabs, bonjour Lirx, bonjour Léa, bonjour Valar, et bonjour Pauline, qui est partie des personnes qui ont rédigé les questions. Bonjour, on va revenir sur ça également. Pauline qui peut débarquer à tout moment et me péter mon setup en se connectant au Google Meet. J'avais pas pensé à ça non plus. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. Si elle veut faire coucou, ce sera avec grand plaisir. Bonsoir Fanny, bonsoir famille DLP. Tout le monde est là, ça fait plaisir. C'est parti donc pour un beau quiz qu'on a mis en place effectivement. Merci d'ailleurs Pauline qui a remis son prime sur le live. Ça aussi, ça fait plaisir. Donc, un quiz du label, Curien. Pourquoi un quiz du label? Qu'est-ce qu'on appelle un quiz du label?
Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Parce que un quiz du label, en fait, c'est parce que ça réunit les quatre contenus et les cinq personnes du label qui ont toutes œuvré sur ce quiz. Donc, avec chacun, on a 30 questions ce soir, 30 questions sérieuses, et relativement. Ouais. Et,
il y en a des sérieuses, il y en a des moins.
Donc, en gros, ça va être 6 séries de 5 questions.
Ce sont toutes des vraies questions, en revanche.
Des vraies questions, effectivement, et qui se compteront tous, même s'il y a des blagues dans le lot, faudra faire gaffe.
Mais c'est des vraies questions quand même.
Est-ce qu'il y aura des blagues ce soir tout le court?
Tout le monde l'a fait, donc on aura notamment dans les séries, à chaque fois, vous aurez une étape rien que d'y penser, une étape flan, une étape Disney's Music Box, une étape secret de Disney, une étape Nagla fait des blagues nulles.
Oui, c'est vrai, effectivement.
C'est le Tour de France, quoi, ce soir.
Six catégories, exactement. 6 catégories différentes, les 6 sont chelous, vous allez voir, mais on vous expliquera les 6 catégories une à une, et dans ces 6 catégories, une question par personne du label. Donc si vous avez bien compris, la question de Curien, ce sera plutôt sur les parcs, Max, ce sera plutôt des questions sur la musique, Pauline, ce sera plutôt des questions sur les films d'animation, Alex de Secret Disney, c'est des questions sur les secrets de Disney... Et moi, c'est un peu random. J'ai rempli les trous, c'est déjà pas mal.
Techniquement, il dit penser, c'est pas que sur des parcs, donc il y aura pas que des questions sur les parcs.
Non, bien entendu. Donc, vous allez avoir du coup un beau. Ça nous permet d'avoir un patchwork, j'ai envie de dire, et ça, c'est cool. Max, qu'est-ce qu'on gagne si on est bon?
Vous allez sur utip.elaboite.com. Vous dites ouais, je veux ce super flan la Disney Music Box, et puis Nagla se chargera de l'acheter avec ses sous.
En fait, il a dit mug, il a dit flan, mais il pensait mug.
Je veux ce flan de la Disney Music Box, personne n'a compris. Mais en gros, c'est ça. Donc, effectivement, si vous allez sur. Ça marche aussi avec boutique.elabette.com ou boutique.folanimé ou boutique.disneymusicbox, vous tapez à peu près ce que vous voulez, ça fonctionne. Vous avez la boutique qui est accessible et les 3 personnes qui remportent le meilleur score pourront toutes choisir l'article qui lui plaît dans tout ça et il l'obtiendra avec. Grand plaisir.
Ça a été décidé, ça, ou on peut amender?
Bah, j'en parlais tout à l'heure et tu m'as pas répondu, donc je suis parti du
principe. Franchement, j'étais en train de me chercher à boire, mais d'accord.
Bah, il fallait pas. Pourquoi tu veux amender?
On peut aussi proposer des chansons, éventuellement.
Ah, on peut ajouter d'autres choses, effectivement.
On peut faire des chansons. Bonsoir.
Et bonsoir, bonsoir, des fun maps ou des choses comme ça qu'on a.
C'est vrai que toi, t'as des fun maps depuis à peu près 15 ans.
Donc, on va lancer le vrai quiz. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Chat!
Le premier quiz.
Youhou.
On lève les bras.
La première catégorie, avant de lancer la première question, Curien, oublie pas, il faut d'abord expliquer qu'on est sur la catégorie Pirate et Mr. Bean.
Tout à fait.
C'est la première catégorie. Pourquoi Pirate et Mr. Bean?
De toute façon, il y a encore une fois les règles qui s'affichent, donc t'en fais pas.
Très bien. Donc, la première catégorie, c'est donc Pirate et Mr. Bean. Pourquoi Pirate et Mr. Bean? Et bien parce que Pirate des Caraïbes, on l'a déjà vu plein de fois. On a eu déjà Pirates des Carabines, on a eu plein de choses. Donc Pirates et Mr. Bean, on s'est dit que ça changeait.
Tout à fait.
Est-ce qu'on lance?
Est-ce qu'on lance?
On lance avec la première question qui est de moi, si je ne dis pas de bêtises. C'est parti.
Oui.
Tout à fait, vas-y.
Dans le film Pirates des Caraïbes, en VF, le père de Will est surnommé Bill le Bottier. Et au Québec, comment il s'appelle ? Est-ce que c'est Bill le Cordonnier ? Est-ce que c'est Bout de Bois Bill ? Est-ce que c'est Billy Jean ? Ou est-ce que c'est Bill l'Amorce ?
Oui, il y a des histoires par milliers dans cet endroit maudit.
Et c'était bien Bout de Bois Bill. C'était bien tenté sur Bill le Cordonnier. Je suis désolé, faut regarder. L'histoire derrière cette question, c'est qu'effectivement, je me suis tapé Pirates des Caraïbes pendant des années en version québécoise, parce que c'est la version que j'avais téléchargée quand j'étais petit. Et autant quand le Black Pearl est renommé La Perle Noire, tu fais bon, pourquoi pas ? C'est fait bizarre, mais pourquoi pas ? Mais autant moi, pendant très longtemps, et en plus, je comprenais pas Bout de Bois Bill, je comprenais vraiment Boule de Bois Bill. Et j'ai vérifié, c'est bien Bout de Bois Bill. Ça aurait pu être Bill l'Amorce, puisque je sais plus quel est le nom en VO, mais la traduction c'est Amorce, Bill Wax, Wals, Wals, un truc comme ça. Et Billie Jean, un jeu de mots évidemment. Bravo aux personnes qui ont répondu Bout de Bois Bill.
Max, est-ce que tu as fait tes gammes ? Est-ce que tu es prêt pour enchaîner sur ta question ?
Allez, c'est parti. Question maintenant. La question de Pauline, qui
parle de voix un peu féminine
sur les films d'animation. Oui. Lequel de ces films d'animation pirate a le mieux marché au box-office ? Pirate bon rien, mauvais en tout. One Piece, Strong World. À l'ouverture du tunnel sous la Manche. Non, c'est pas ça, c'est la question d'après.
La vache, mais non, mais oui, il est sérieux. Pirates, j'avais un
bon
travail.
Mauvais en tout. One Piece, Strong World. Sinbad, la légende des sept mers. La planète au trésor.
Comment il a fait pour se tromper le papa ?
Donc vraiment Max, arrête de faire des OA. Pas sûr que tu continues de lire des questions.
Donc lequel de ces films d'animation sur les pirates a le mieux marché au box-office ? Donc One Piece, Strong World, Pirates bon à rien, mauvais en tout, dont il y a d'ailleurs un flan. Sinbad, la légende des sept mers ou la planète au trésor. Et bien, Bogyog.
C'est extraordinaire, c'est que ma première question j'ai réussi à la louper.
C'est quand même très fort. Et la réponse était... Oh la vache ! Eh ben non les amis ! C'est pas One Piece ! C'est pas parce que c'est les One Piece qui sont les plus forts que... Non alors, pour être très clair, puisque Pauline a eu la gentillesse de nous donner les chiffres, sachez que One Piece, c'est celui qui a le moins rapporté au box-office, avec 61,2 millions de dollars. Le second, c'est Sinbad, la légende des sept mers, avec 80,8 millions. Puis, la planète au trésor, avec 110 millions. Et c'est bien Pirate, bon à rien, mauvais en tout, qui a rapporté le plus d'argent, avec 123 millions de dollars.
Film chroniqué dans un flanc avec le parcu, quand même.
C'est vrai, il y avait le parcu.
Et moi.
Il y avait Louis de le parcu dedans.
On était quatre.
T'étais là ? Ah oui, c'est vrai, t'étais là. Parce que c'était le premier aussi avec Pauline.
Tout à fait.
Enfin, le premier où Pauline, elle prend la main, plutôt. Et toi, t'étais venu faire un peu la transition, finalement.
Max, est-ce que t'es prêt ? Est-ce que tu t'es relu ? Est-ce que tu t'es préparé mentalement, psychologiquement ?
Bravo,
est-ce que t'as aligné tes yeux pour pas lire une colonne en dessous ?
C'est bon. Alors.
Donc là, c'est la question de Max.
À quelle occasion Rowan Atkinson, qui est Mr. Bean, a-t-il joué Chariots of Fire, les chariots de feu, au jubilé du Diamant de la Reine, à l'ouverture des JO 2012, à l'ouverture du tunnel sous la Manche, ou pour fêter le Brexit ?
Vous en faites pas, il y a des questions un peu plus simples plus tard. Là, on commence un peu dans le dur.
C'est vrai que...
Ah, il y a
eu... Et bah voilà, là il y a des bonnes réponses, ça fait plaisir. À l'ouverture des JO de 2012. Et non, l'ouverture du tunnel sous la Manche.
C'est vachement le cultisme. Avec je ne sais plus quel film.
Chariot de feu.
Tout simplement.
Bien sûr, cette musique que vous pouvez retrouver à Backlot.
Oui, c'est vrai. Bah non, du coup, mais oui. C'est parce que Backlot s'est fermé et ça va devenir le Taviez-vous Avengers Complete. Le 20 juillet, soyez là. Ou pas, d'ailleurs. Nous, on sera à Pim's Kitchen.
Bon, pour rester dans cette thématique pirate, on va aller un peu plus dans les parcs, si ça ne vous dérange pas.
Et Parcurien va dans les parcs.
Donc, je vais vous demander dans laquelle de ces attractions n'a-t-on jamais pu observer, qu'il soit réel ou fictionnel, des incendies ? Dans quelle attraction il n'y a pas d'incendie ? Est-ce que c'est dans Los Piratas à Bellward ? Est-ce que c'est dans Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris ? Est-ce que c'est dans Piraten and Batavia à Europa Park ? Ou est-ce que toutes ces attractions sont liées à des incendies ?
Est-ce donc vraiment, encore une fois,
qu'ils soient réels ou fictionnels, hein, que ce soit dans le délire de la façon, c'est que des dark rides.
Soit il y a une vraie flamme qui a été aperçue, soit il y a des flammes pas réelles qui sont dedans, mais en tout cas il y a un incendie qui est quelque part créé de toutes pièces.
Donc pour faire un petit bilan, est-ce qu'il y a eu un incendie à Piraten and Batavia Europa Park? Bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont dû reconstruire l'attraction. Est-ce qu'il y a un incendie à Pirates des Caraïbes? Bien sûr, après la mise à sac du village, vous avez l'incendie juste avant la deuxième chute. Et enfin, Los Piratas à Bellward, c'était le piège. Finalement, personne n'est tombé dedans. J'ai vraiment dû regarder un on-ride pour m'apercevoir qu'à un moment, on voit des petits effets de flammes et on entend des crépitements qui laissent quand même vachement penser qu'il y a un incendie mis en scène. Et donc, toutes ces attractions de pirates sont liées à des incendies. Est-ce que c'est une prédestination? Je ne sais pas.
Peut-être, peut-être. Très belle question en tout cas, et bravo parce que pour quand même plein de gens qui ont répondu la bonne réponse, donc félicitations. Dernière question, Curien, de cette catégorie Pirate et Mr Bean.
Tout à fait, on va à la dernière question.
C'est la question de Alex.
Alex. Tout à fait. Donc, qu'est-il écrit sur un panneau caché dans la file d'attente de Pirates of the Caribbean, ajouté en 2017 à Disneyland Paris? Est-ce qu'il est écrit « Welcome to Tortuga » ? Est-ce qu'il est écrit « A pirate's death for you » ? Est-ce qu'il est écrit « Do you fear death ?» Ou est-ce qu'il est écrit « Pirates, you're beyond, round,
round, round. » Non, « yarn », ça veut dire « pirate, t'es de laine ».
Oui, mais j'ai failli bailler, mais ça va, ça arrive. La dernière question de cette séance pirate. Hein, donc,
c'est la dernière question, effectivement. Ensuite, on va changer de catégorie. Tu pourras peut-être nous montrer les scores.
Pratiquement le score. Mais la réponse tout de suite, c'est bien sûr Pirates, yeah, but you're warned. Bien sûr, je n'arriverai jamais à dire.
Non, c'est manifestement.
Donc, attention.
Tu peux nous faire avec l'accent québécois?
C'est attention, la maudite pirate.
Incroyable. Donc oui, pirates, soyez avertis finalement. Pas mal de gens, il y a que la moitié des participants qui ont réussi à trouver. Je vois que 12 participants d'ailleurs, pas mal de gens se sont abstenus de répondre. Peut-être que c'est ça la bonne stratégie quand vous ne savez vraiment pas. Welcome to Tortuga était bien tenté, mais effectivement on n'arrive pas vraiment à Tortuga quand on arrive dans Pirates des Caraïbes, donc ça ne pouvait pas vraiment être ça. A Pirate's Death for You était pas si con en termes de jeu de mots, mais bon. Les scores, oh bah dis donc.
Ah si, les scores. C'est Vincent 08 en premier.
C'est sur cette question que Valaré Valaret ont été bons.
Notre cher ami Bertrand en deuxième.
Et Valar en troisième.
Que tu as pu voir il y a quelques mois, Nagla.
Tout à fait. Bertrand. que j'ai fait un grand plaisir de voir en vrai, et surtout qu'on a reçu pour le flanc sur Raya.
Oui, bien sûr, c'était la fois où moi j'étais en train de faire un autographe avec Tony Baxter, c'est ça?
Tout à fait, t'étais en train de te faire signer le fion par un Imagineur pendant ce temps-là. Toi, tu dis que c'est un carnet, moi je suis sûr qu'il s'est passé autre chose. Le reste du top 5, évidemment, avec Lyrx et avec Valaret également, qui sont pas loin. On a fait un sixième du quiz, vous avez largement le temps de vous rattraper, comme vous l'avez compris. Et on passe d'ailleurs dans la, Curien, deuxième catégorie.
Ok, c'est parti.
Qui dépasse? Je la mets n'importe où parce qu'elle elle est trop grande.
L'espace, mais pas Star Wars.
Espace, mais il est interdit de parler de Star Wars dedans. Première question, c'est la mienne évidemment, j'ai pas eu le temps. Dans laquelle de ses œuvres Mark Hamill joue-t-il un pilote très doué? Est-ce que c'est Babylon 5? Est-ce que c'est Star Wars en douille? Est-ce que c'est Battlestar Galactica? Ou est-ce que c'est Wing Commander?
Vraiment désolé, vous allez perdre des points à cause de ça.
Et oui, bah oui, les gens sont allés vite. Mark Hamill, il joue dans Star Wars.
Il y a quand même 8 bonnes réponses. Hein.
Mais sauf que la catégorie, c'est espace, mais interdit de parler de Star Wars. Donc désolé aux 7 personnes qui ont répondu Star Wars en douille. Après, quand vous voyez écrit Star Wars en douille, peut-être qu'il faut se poser la question de... c'est bizarre répondu comme ça, mais je peux comprendre que vous. C'est dommage. Désolé pour ce petit.
On peut pas annuler la question. C'est dommage.
Ah non, on peut pas pour le coup. Désolé. Mais pour répondre, pour quand même donner le fact qu'il y a derrière, Wing Commander, c'est une série de jeux vidéo, des jeux vidéo faits par Chris Roberts, donc la personne qui est derrière Star Citizen, donc quelqu'un dont on peut rire des fois, mais on évite parce que les fans de Star Citizen peuvent vous casser la gueule.
C'est ça semble vécu.
Simulation spatiale. Bah oui, je travaille dedans, donc je sais. C'est une simulation spatiale. pas dans Star Citizen. Pas du tout, attention, je précise. C'est une simulation spatiale, donc une vieille simulation dans laquelle il y avait des vraies séquences de films avec des vrais acteurs en chair et en os. Et le héros du jeu, figurez-vous que c'est un pilote. Et c'est Mark Hamill qui le joue, donc c'est bien le Luke Skywalker de Star Wars qui rejoue un pilote. À l'époque où sa carrière va pas nécessairement très bien, on est après Star Wars. Et bon, il fait des trucs cool, Mark Hamill, mais bon, il n'est pas non plus au plus haut de sa forme, quoi.
Max, tu es prêt pour la prochaine question ?
On rappelle qu'on est dans la catégorie, donc je reprécise une bonne fois. Hein. On est bien dans une catégorie où on va parler de l'espace, mais il est interdit de parler de Star Wars.
Quel parc n'a jamais diffusé le film d'animation Fly Me to the Moon ? Europa Park en Allemagne, Futuroscope en France, Belluard en Belgique ou Mirabilandia en Italie ? Fly me to
the moon. Pauline précise que c'est dans sa version raccourcie parce que aucun parc ne l'a eu en entier. Let me see what spring is
like on Jupiter and Mars. Ah, ça s'est pas mouillé. Ah, c'est... Si, c'est mouillé. Ça s'est mouillé. Et c'est allé se mouiller dans l'eau de Belluard, à Mirabilandia, ainsi que dans le Futuroscope.
Puisque le Futuroscope partout, sauf au seul endroit où ça n'a pas été diffusé.
C'est à Europa Park, il n'a pas été diffusé, mais Europa Park, ils ont tendance à faire leur propre film aussi. Et pour le Futuroscope, il me semble que c'est, en fait, ça s'appelait Astromouche.
Voilà. Astromouche.
Et c'est exactement ce film-là.
C'est quoi Fly Me to the Moon ?
C'est pas Fly Me to the Moon. C'est une chanson. De Frank
Sinatra.
À la
base, effectivement, c'est une chanson, c'est du jazz. Et c'est un film d'animation belge également, nous dit Pauline, avec des mouches qui vont sur la lune. D'où le jeu de Fly, la mouche.
Un accent ?
Fly me to the moon, là ? Je comprends pas. Envole-moi vers les étoiles, m'en fous.
Sur la lune. Mouche-moi vers la lune. Mouche-moi d'eau vers la lune, non ?
Ah, je sais. Donc, on arrive à la question numéro 8, qui est une question blind test. Est-ce que c'est le Visionarium ? Est-ce que c'est Star Wars Hyperspace Mountain Rebel Mission ? Est-ce que c'est le Disneyland Railroad ? Ou est-ce que c'est Buzz Lightyear Laser Blast ? Est-ce que c'est le Visionarium ? Est-ce que c'est la montagne de l'hyperespace, la Rebel Mission de Star Wars ? Est-ce que c'est le train de Disneyland ? Ou est-ce que c'est le tir au laser de Buzz l'éclair ?
Entend-on encore cette musique ?
Encore cette musique ?
Pas quand on avait fait un quiz comme ça, le blind test, c'est moi qui le faisais à l'arrache avec mon piano. Aujourd'hui, on s'est dit, vas-y, on va demander à Max. Comme ça, il va faire des blind tests un peu cool avec des vrais instruments, des trucs un peu stylés. Résultat, il m'a envoyé un MP3. Et je me dis que quelque part.
J'aurais pu t'envoyer la vidéo, je joue du saxophone. J'ai pensé à le faire. Ah, mais un peu trop tard.
Dommage.
Mais tout à fait, il y avait un piège avec le « encore ».
Et oui.
Il y a trois personnes qui sont tombées dans le piège, mais beaucoup non.
Bravo, bravo. Beaucoup de bonnes réponses pour le Disneyland Railroad. Ben oui, parce que c'est la musique du Visionarium, mais le Visionarium n'existe plus. Et donc, cette musique, on ne peut plus l'entendre dans le Visionarium, puisque il n'y a plus de Visionarium. Alors qu'on l'entend toujours dans le Railroad, où ça ?
Quand tu démarres de Discovery de Railroad.
Tout à fait.
Discovery Station. Enfin, quand tu démarres, c'est un grand mot. C'est quand tu passes devant le Discovery Station, parce que oui, parce tu que t'arrêtes plus actuellement.
En réalité, c'est quand tu passes derrière Space, en gros.
Oui.
Quoi.
Tout à fait.
Et je crois que t'entends aussi un petit bout de Space Mountain de la Terre à la Lune.
Et vous pouvez aussi l'entendre dans le Vénérique de Rien que d'y penser. Et oui.
Et oui. C'est même techniquement le bed du sommaire. Donc toutes les
intros. Aussi l'entendre, bien sûr, dans la musique des tapis roulants, quand les tapis roulants fonctionnent.
C'est vrai.
Je vais vous donner une liste de 4 attractions et il va falloir cliquer sur celle dans laquelle on va dans l'espace. Donc, dans quelle attraction est-ce qu'on va dans l'espace ? Est-ce que c'est dans Crush Coaster ? Est-ce que c'est dans Fly à Fantasyland ? Est-ce que c'est dans Eurosat Cancan Coaster à Europa Park ? Ou est-ce que c'est dans Droomvlucht à Efteling ?
Je crois que de la manière dont tu as posé les 4 réponses, Curien, je crois qu'il y a une réponse qui n'est pas la bonne.
Je crois que j'ai insisté, hein. Mais à ton avis, quand est-ce que j'ai insisté ?
Droomvlucht qui est la meilleure attraction de Steam.
Droomvlucht qui est la pire attraction d'Efteling.
Une des meilleures.
Bon, une des pires.
Okay, bien sûr, c'est une des rares questions où on parle pas de Disney. Parce c'est que vrai. Bon, on croit on voit rien, il y a une boule à facettes, mais c'est pas l'espace, c'est l'océan.
Mais oui. La file d'attente de Crush Coaster est aussi longue que le vide intersidéral de l'espace.
Après, excusez-moi, mais.
Il y a 6 personnes où j'ai gueulé cancan comme un connard. Il y a 6 personnes qui ont cliqué dessus. Ah, vous.
Et non, effectivement, Eurosat cancan coaster.
Que vous méritez.
Maintenant, c'est plus dans l'espace. Tu vas. Et non. Bah, tu vas dans le ciel éventuellement, et puis tu descends au Moulin Rouge.
D'après le dernier podcast de la file d'attente, on va dans les jambes des dames qui dansent.
C'est vrai.
Tout à fait. Et par ailleurs, en fait, on monte grosso modo jusqu'au sommet de la Tour Eiffel, ce qui ne correspond pas à la stratosphère. Hein.
Pas tout à fait.
Imaginez la tête des visiteurs.
Enfin, on va. Ne vous en faites pas pour ceux qui veulent du Disneyland Paris. On y arrive, puisque c'est la question, Alex. Quel robot?
Accrochez-vous. Généralement, c'est les plus durs.
Voir dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Est-ce qu'on peut voir H2G2, R2D2, Nine-Eye ou Z6PO?
C'est pas beau de se moquer, mais Alex, quand tu poses des questions, il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on peut voir dans Buzz Lightyear Laser Blast? Moi, j'ai toujours l'impression qu'il est en train de... Tu sais, c'est Madame Léota au centre, quoi. Est-ce qu'on peut voir Buzz Lightyear Laser Blast? Désolé, Alex. Ah, il est encore là. Oups. Je te promets, tu regarderas des rediffs dans les quiz. C'est toujours un peu comme ça. Est-ce qu'on peut voir? Moi, ça me fait beaucoup rire. La dédicace.
Un petit R2D2 qui s'est perdu dans la masse. De Nine-Eye.
Oh, bien joué, il y a quand même beaucoup de monde qui est allé à la bonne réponse. Bonne remarque d'ailleurs de Le Parcu qui donnait un indice. Il y a un chiffre dans la réponse, c'est vrai.
Bien vu.
Donc le total des scores, 20-0-8 qui garde la première place. Oh, ça bouge pas beaucoup au niveau du podium, c'est bien placé tout ça. Suivi de très très près par Bertrand, mais genre c'est dans un mouchoir de poche, comme disent les gens qui n'ont pas d'imagination pour trouver des métaphores. Et en troisième place, Valar, suivi de très près par Valarette, à croire qu'ils jouent ensemble, je refuse de le croire. Et il y a l'Irx en cinquième position.
Et enfin, Lolo Chips, ne t'en fais pas. Il y a Arnaud qui a cliqué sur R2D2. Donc peut-être que tu pourras rattraper quelqu'un. Il faut garder espoir.
La catégorie suivante, Corien, si tu lances la question avant que je lance la catégorie, je te pète la gueule.
Non, j'ai retenu la leçon. C'est
très
bon.
Bien. Parfait.
Il faut se roder.
La comme catégorie jour. Suivante, c'est Food Porn, mais pas Pim Kitchen. Alors, si vous comprenez pas le rapport, écoutez le dernier rien que d'y penser déjà.
Mais un petit élément visuel sonore, Nagla.
Ah, il y a un petit élément sonore, pardon.
Ah oui, je te l'ai
envoyé. Ah oui, c'est vrai, il m'a envoyé une transition
food. Dans tous les cas, je le mettrai. Hein.
Ok, transition food, c'est parti.
Le malaise s'installe.
Donc, comme vous l'avez compris, on va parler de bouffe.
Je vous invite à regarder. Est-ce que tu as un logo visuel de Pim Kitchen peut-être à montrer aux gens, Nagla?
Alors, voilà l'élément visuel en question. Donc, ça, c'est le logo officiel hein, de Pim Kitchen. Pim Test Kitchen, donc qui est là pour ceux qui n'ont pas
la version californienne, mais oui.
C'est le nouveau restaurant.
Mais nous, il n'y a pas le test.
Oui, il n'y a pas de test chez nous, donc c'est encore plus parlant. Nous, il n'y a pas le test, effectivement. C'est le restaurant qui va ouvrir le buffet, qui va ouvrir le 20 juillet à Avengers Campus et qui vous permet de manger des trucs de taille très variable. On en
et de boire 24 centilitres de bière en 4 fois à 20 balles.
Par exemple, je vais y arriver.
Le fait que la taille très variable dans Pim Kitchen, bon.
Voilà. C'est ce genre de choses. Donc, si vous connaissez le logo, si ça vous rappelle quelque chose, écoutez, qui suis-je pour juger?
Tu veux mettre l'élément de comparaison avec, s'il te plaît? J'ai pas très bien compris.
On va pas faire ça. Donc, la première question, c'est ma question, hein, comme vous l'avez compris maintenant, à chaque fois on commence par les miennes. L'une de ces pizzas n'existe pas chez Picard. Laquelle? Est-ce que c'est la pizza con molodolo Dini Rossi El Gigali? Est-ce que c'est la pizza saumon mozzarella crème fraîche? Est-ce que c'est la pizza bœuf merguez sauce salsa? Est-ce que c'est la pizza poulet tomate artichaut? Tomate poulet artichaut d'ailleurs, pardon, je l'ai dit dans le mauvais sens, mais c'est la même idée. On rappelle bien évidemment que ce stream est sponsorisé par Picard, d'où l'ajout de cette question, complètement placement de produit. C'est faux. Par contre, sachez que moi, j'ai mangé une pizza Picard ce soir, pas une de celles qui est affichée, que j'adore les pizzas Picard, que c'est ma question et que finalement je fais ce que je veux. Donc si vous avez des choses à redire à propos des pizzas Picard...
Personne ne comprend cette question, ne vous en faites pas.
Moi j'ai mangé avec Margot parce qu'on est Picard.
Je vois que ça continue de baisser. Ah, on est plus que 3.
C'est terrible, oh, c'est horrible ce que tu fais, Nagla.
Oh, c'est pas beau. C'est pas beau, effectivement, la pizza con mozzarella, rosi, el gialli existe bien. La pizza bœuf merguez sauce salsa, que je vous recommande d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très calorique finalement, alors qu'il y a des bonnes petites merguez dedans, ça fait plaisir. Elle existe tout à fait. La pizza tomate poulet artichaut, qui peut sembler étrange, existe bien. Par contre, la pizza très classique saumon mozzarella crème fraîche n'existe pas chez Picard. Et ça, c'est terrible.
Là, c'est la question de Pauline avec les mots compliqués. Laquelle de ces anecdotes sur Ratatouille est fausse? Il existe une comédie musicale Ratatouille approuvée par Disney. Cam de Bord a servi d'inspiration pour un des chefs du film. C'est le premier Pixar à ne pas avoir de cassette vidéo, bien sûr, et les magasins exposant les rats morts existent à Paris. Je vais refaire la réponse. Et donc la bonne réponse, pardon, c'était Yves Cam de Bord a servi d'inspiration pour un des chefs du film. Yves Cam de Bord qui est bien sûr...
J'ai envoyé la réponse. Excusez-moi, j'étais en opération contre-sabotage, puisqu'apparemment toutes les motos du 77 avaient décidé de passer dans la rue.
Alors, Pauline qui donne des détails d'ailleurs, puisque Yves Cam de Bord ou Michel Serrant, celui que tu penses être le plus connu dans ceux qui étaient jury d'une émission culinaire en 2007, a servi d'inspiration pour un des chefs du film. Et c'était en fait la jurée de Top Chef Hélène Darroze qui a servi d'inspiration pour Colette, le saviez-vous? A noter que y en a beaucoup qui ont pensé que c'était le premier Pixar à ne pas avoir de cassette. Eh ben oui, tout à fait. Ça, c'était vrai. Oui, c'est l'inverse, pardon. On cherchait quelle information était fausse, excusez-moi. Donc, c'était effectivement... Du coup, je suis perdu moi-même. Du coup, c'était effectivement le premier film, puisque Cars est le dernier film Pixar à avoir eu une cassette. Le magasin exposant les rats morts existe pour de vrai à Paris, et ça, je trouve ça incroyable. Et effectivement, il y a une comédie musicale, Ratatouille The Musical. Si, le pire c'est que j'avais lu la question avant, Pauline, mais vraiment j'avais oublié juste qu'elle était à l'envers. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. C'est absolument atroce. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? C'est autour de Curien, je crois.
Max, tu es prêt? Non, c'est toujours Max.
Non, encore une question.
Ah, pardon.
C'est une question Disney Music Box, préparée par votre serviteur. Dans The Little Mermaid, en VO, c'est pour ça que j'ai insisté sur le titre en anglais, quelle référence culturelle française le chef Louis ne fait-il pas? Est-ce qu'il fait pas référence aux Champs-Élysées, à Maurice Chevalier, à Notre-Dame de Paris ou à la Nouvelle Cuisine?
Les poissons, moi j'adore les poissons, les couper, les tronçonner à vif, j'aime le trancher.
Alors quelle est la bonne réponse finalement de The Little Mermaid?
C'est quoi la bonne réponse?
La bonne réponse, c'est Notre-Dame de Paris.
Mais non.
Dans l'ordre en français, il dit la Nouvelle Cuisine, les Champs-Élysées, Maurice Chevalier.
Et pas Notre-Dame de Paris.
Les poissons.
Donc c'était la bonne réponse, Notre-Dame de Paris. Désolé pour ceux qui ont répondu les Champs-Élysées. Ou pour Maurice Chevalier. Personne n'est allé sur la Nouvelle Cuisine qui semblait peut-être assez évident.
Maurice Chevalier, c'est vraiment le français le plus connu des Américains, j'ai l'impression. Oui. Du coup, dans trois des films suivants, il y a un petit déjeuner qui est quasiment identique. Je vous mets quatre films, vous me trouvez celui dans lequel il n'y a pas ce petit déjeuner.
Ok.
Donc, est-ce que c'est Les Nouveaux Héros, Alerte Rouge, Dingo et Max ou Mulan? Trois de ces films.
Tidej qui revient.
Tidej qui ressemble énormément. Aïe.
Oh là là, ça s'est planté fort. Tout le monde est tombé dans le piège. Mais oui, Alerte Rouge, Mulan et Les Nouveaux Héros sont trois films qui ont plutôt une ambiance asiatique, soit une famille asiatique, soit carrément la localisation. Et pas du tout, que rien.
Comment ça, pas du tout?
Bah, c'est pas du tout un
petit déjeuner. Ah oui, non, pas du tout, effectivement. Oui, non, je ne crois pas qu'on voit des petits déjeuners dans Les Nouveaux Héros. Et si on en voit, effectivement, ils ne ressemblent pas à celui-là. Donc, pour l'image, hein, donc c'est deux œufs à la place des yeux. Dans Dingo et Max, vous avez du bacon à la place de la bouche et du ketchup sur le nez, je crois, ou des poivrons. Et dans Alerte Rouge et dans Mulan, vous avez un peu la même chose avec les œufs à la place des yeux. Et dans du porridge. Et apparemment, c'est un truc qui se fait beaucoup en Chine. C'est un nom spécifique, mais si vous cherchez Mulan petit déjeuner, vous allez trouver.
C'est rigolo.
Tout à fait. Voilà. Donc la petite question un peu. Voilà.
Ce que j'aime bien, c'est que vraiment avant de lancer ce live.
Le pongi.
Avant de lancer ce live, Curien, il a dit putain, y a beaucoup de questions difficiles. Heureusement, j'en ai mis des faciles.
Ah, mais, tu vois, je suis impressionné quand même. T'as facilité des questions. C'est pas parce que toi, tu sais que nous, on sait. Hein.
Eh oui.
Mais c'est peut-être une nouveau héros, effectivement.
En plus, dans Dago et Max, la séquence, elle est incroyable. Moi, j'adore la meuf qui fait des œufs. Des œufs. Des œufs. Comme ça.
Dans Mulan, c'est Mushu qui le donne à Mulan un matin, je crois.
Oui, Mushu lui donne et lui met même directement dans la tronche avec ses baguettes. C'est rigolo.
Oui, tout à fait. Donc, on va question suivante, c'est la question d'Alex. Quelle attraction aurait pu avoir en son sein un restaurant, temple du food porn, qui n'existera finalement jamais? Est-ce que c'est dans Phantom Manor, dans la grange de Phantom Manor? Est-ce que le restaurant aurait été dans les mystères du Nautilus, avec le projet Discovery Mountain? Est-ce qu'il aurait été dans Crush Coaster pour manger des poissons, des poissons, des poissons, des poissons? Ou est-ce qu'il aurait été dans Star Tours avec l'ambiance de la cantina?
Mais où que c'est alors? Vous avez un peu de tout, hein. Vous avez du Discoveryland, vous avez du Frontierland, vous avez du Discoveryland et vous avez du Walt Disney Studios.
Du World of Pixar.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Un resto Phantom Manor, j'en rêve, nous dit le parcu. Mais peut-être que ça a failli exister, on ne sait pas.
Ça a existé pour une soirée, parce qu'ils avaient fait un jeu concours, je crois, où ils avaient invité des gens à manger dans le couloir des galeries des portraits.
Max, est-ce que tu peux potentiellement fermer ta tronche?
Ah, c'était pas fini?
C'est pas le sujet. Et donc, c'était effectivement les mystères du Nautilus avec Discovery Mountain.
Pour revenir sur Phantom Manor, dans la grange, il devait y avoir un pré-show avec des chevaux invisibles. Donc on aurait eu, enfin, des chevaux invisibles, ça veut dire qu'il y aurait eu des bruits de chevaux. On n'aurait rien vu, peut-être qu'il y aurait eu des effets pour montrer qu'il y avait des chevaux, mais... Oui, regardez le grand avec des chevaux invisibles, mais du coup, il n'y en a pas. Oui, ils sont invisibles. Ok.
C'est marrant qu'il y ait des gens qui aient mis Star Tours avec l'ambiance de la cantina. Je sais pas si tu te souviens, Curien, il y avait eu cette rumeur qui avait beaucoup circulé sur le remplacement de Pizza Planet par...
Oui, une cantina et une pérennisation de la Jedi Training Academy à Discovery Land Theater.
C'est ça.
Tout à fait.
Donc là où il y a Filar Magique. Et donc à côté, on avait une genre de cantina rebelle. Ça voulait se faire un genre de base planquée des rebelles, un truc comme ça. Et finalement, ça a été annulé parce que derrière, ils ont annoncé l'extension avec le Land Star Wars.
Tout à fait.
Ça a été annulé. On ne sait pas si c'était vraiment un vrai truc, mais en tout cas, cette rumeur n'a jamais été confirmée. Et il y a eu derrière ce truc-là. Mais donc, oui, c'était bien l'émissaire du Nautilus avec ce fameux gros projet Discovery Mountain. Si on devait l'expliquer en trois mots, c'était quoi, Corian?
Le projet Discovery Mountain, c'était ça devait faire trois fois la taille que ça fait là, ou un truc comme ça, au moins deux fois. Et devait comprendre effectivement le Nautilus en plus. Il y avait une tour de chute aussi qui était envisagée. Les tours de chute à Disneyland Paris, quand il y en a eu, elles ont toujours été un peu annulées. Genre, t'avais eu Geyser Mountain qui avait été envisagé au Frontierland, t'avais eu celle-ci, et puis on a eu la Tour de la Terreur qui a été annulée et reportée beaucoup plus tard. Enfin, officiellement, elle n'a pas été annulée, mais dans les faits, on savait qu'elle était développée pour Paris et qu'elle est arrivée en Californie avant. Donc, je vous envoie les scores.
Puisqu'effectivement, on a terminé la partie food porn. Et avant et ça,
donc,
les scores.
Et donc, toujours Vincent 08 qui est en tête à 131.
Le boss. Points.
Le boss. Hein, ce stream est dominé par la Belgique une fois. Mais il y a une France qui le talonne quand même à 21 000 points. Ça pourrait aller très, 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 très vite. Et Valarette qui clôt le podium à 80 000.
On a perdu Valar.
On a eu quelques nouveaux participants. Et en réalité, je voudrais... Féliciter le dernier qui est repassé au-dessus des moins 100 000.
Ah, bravo!
Bravo!
Bravo! Il y a une progression incroyable. Donc, on a perdu Valar qui a glissé à la 5e place. Mais sinon, le podium reste quand même relativement similaire. On a des gens qui sont bien, bien placés. Peut-être que le prochain sujet sera moins favorable à ces gens. On est parti sur les snobs qui aiment le steampunk. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va. Moi, j'aime bien le
steampunk.
L'accent
en plus, c'est ça.
Moi j'aime bien
le steampunk, n'est-ce pas?
Moi j'ai qu'à prendre l'accent rémois et puis ça marchera très bien.
Parce qu'à un moment donné ça va.
Un peu champagne aussi.
Moi franchement je trouve que le steampunk c'est mieux quand il y a de la fumée un peu partout. Et quand les éléments bougent.
Une peu de la verdure mais dans une quantité relativement limitée.
Ouais c'est possible. Non franchement.
Moi j'aime bien c'est quand on.
À Disneyland Paris il faudrait qu'il y ait du steampunk.
Je pense qu'il faudrait tous qu'on ait un cancer du poumon en allant dans un land steampunk.
C'est trop bien. L'expérience originale, c'est que tu rentres dans l'attraction et tu es obligé de tousser.
parce que tu n'en peux plus, ça te pique la gorge. Là, c'est vrai steampunk, tu comprends ce que je veux dire ou pas?
On l'appellerait tous en train. Tous en train.
Et c'est avec un grand en train, justement, que je vais poser cette première question qui est la mienne. Comme vous l'avez compris, la catégorie est un peu random. Et bien, c'est parti. L'un de ces trucs pas snob du tout n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fast-food steampunk basé aux Philippines? Est-ce que c'est des toilettes steampunk basées en Allemagne? Est-ce que c'est une station de métro parisienne steampunk? Ou est-ce que c'est une maison close steampunk basée aux Pays-Bas? Il y a un de ces trucs qui n'existe pas.
On a tous une grosse pensée pour l'historique Google de Nagla.
Bah quoi, j'ai tapé
probablement ça. Déjà fichier S.
Quoi, tu tapes
il y a un type qui cherche des toilettes steampunk en Allemagne. À ton avis, c'est pour préparer quoi? Je sais pas. Une bombe à la vapeur.
Qu'est-ce que ça donne les résultats? Est-ce que vous avez trouvé?
Qu'est-ce que ça donne les résultats?
Pas. Bien sûr que c'est snob le steampunk, le parcu. Eh bien, c'est... Ouh là là, ça s'est un peu planté. C'est une maison close steampunk aux Pays-Bas. J'ai cherché. J'ai tapé Netherlands Brothel Steampunk. Je vous promets, j'ai rien trouvé. Alors qu'un fast-food steampunk aux Philippines, ça existe. Le steampunk Cara quelque chose. C'est une ville de là-bas. Donc je vais pas essayer de la reproduire. Ça commence par Cara. Mais ça existe. Des toilettes steampunk
oh,
en Allemagne. Évidemment que ça existe. Vous êtes jamais allé à Fantasialand? Vous êtes jamais allé dans Rookburg? Il y a une zone steampunk et il y a des toilettes parfaitement steampunk dans le restaurant notamment, mais pas que. Et le plus de gens se sont trompés sur la station de métro parisienne. Elle existe bien, c'est la ligne 11 si je dis pas de bêtises. C'est Art et Métier qui a été refaite dans le style steampunk, le saviez-vous? Mais oui.
Max, tu es prêt?
Tout à fait. Allez-vous, la question. Allez là, c'est la question de Pauline.
Oui.
Quel visionnaire de Discoveryland n'apparaît pas dans un film d'animation? Est-ce que c'est H.G. Wells? Est-ce que c'est Jules Verne? Est-ce que c'est Léonard de Vinci? Ou est-ce que c'est George Lucas?
Une précision.
Ils sont tous des visionnaires de Discoveryland.
Une précision quand même, il y en a un qui techniquement n'est jamais apparu, mais va apparaître dans un film qui a été largement annoncé.
Est-ce qu'on peut considérer John Lasseter comme un visionnaire de Discoveryland avec l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast?
Est-ce qu'on a envie de le considérer comme un visionnaire? Je te dis, je sais pas. Écoute, on va laisser cette question en suspens. Chacun se
après,
pense son avis.
Il a aussi. Max,
est-ce que tu peux, s'il te plaît, jusqu'à la fin de la soirée, te taire? Voilà. Arrêtez d'imaginer des questions. Quand il y a des gens qui ont écrit des questions, tu attends de voir les questions et quand on aura fait les 30 questions, tu pourras imaginer des questions en plus. Si tu veux, si ça te fait kiffer. Mais pour l'instant, prends pas de risque. Tu me fais peur à chaque fois que tu ouvres la bouche. J'envoie les résultats.
Mais c'est George Lucas. Ben oui, George Lucas, il n'y a pas a priori de projet de film d'animation. Jules Verne va apparaître dans Little Jules Verne. Personne n'a répondu Jules Verne, donc tout va bien. Léonard de Vinci est apparu dans Léo da Vinci Mission Mona Lisa. Et H.G. Wells est apparu dans War of the Worlds Goliath. Mais oui, alors que George Lucas, jamais. Alors c'est à ma connaissance, il n'y a pas eu de film sur lui. J'ai cherché mais j'ai rien trouvé en film, nous précise Pauline. Donc si jamais finalement vous en trouvez un, c'est la faute de Pauline. Ça s'appelle balancer le bébé, l'eau du bain, tout ce que tu veux.
Voilà, Max, si t'es prêt pour enchaîner, vas-y.
Donc, c'est une question musique. Dans quel autre lieu Disney trouve-t-on la musique de Discoveryland? Est-ce que c'est Horizon Bay à Tokyo Disney Sea? Est-ce que c'est Tron Light Cycle Power Run à Shanghai Disneyland? Est-ce que c'est Mission Space à Epcot? Ou est-ce que c'est la Spatial Experience à Disneyland Dolancourt?
En gros, il y a deux endroits où on entend la musique de Discoveryland, à Discoveryland et dans l'un de ces lieux-là.
Ouais, Horizon Bay à Tokyo Disney Sea, Tron Light Cycle, voilà, machin, Shanghai Disneyland.
Tron Mission Space,
Mission Space, Epcot ou Spatial Experience à Disneyland de Lancourt.
Disneyland de Lancourt et peut-être Nigloland en fait, depuis le début.
C'est le troisième parc.
Disneyland Dolancourt.
Si les gens votent Disneyland Dolancourt parce que t'as dit de la merde, Max, est-ce que tu vas aller t'excuser publiquement? tu fais des blagues, mais il y a des gens qui votent, qui sont très sérieux là, qui sont derrière leur écran, qui sont très concentrés, qui attendent, qui se disent putain, vont arrêter de faire des blagues, ils vont envoyer des questions, merde.
Et le chien vient de poser la question, c'est quoi Disneyland Dolancourt? Merde.
Mais bah t'as plus qu'à expliquer, bah quand,
c'est Nigloland en fait.
C'est ton.
C'est Nigloland.
Justement, Myriam, elle a fait la go. Tout ça, c'est ta vote, Max. Bon, il n'y a que Myriam, ça va. Et la pauvre.
J'ai hâte d'aller à Niglo.
Et oui, c'est Horizon B à Tokyo Disney Sea.
C'est un restaurant à Tokyo Disney Sea. Quelqu'un déjà allé ici à Tokyo Disney Sea ou pas?
Alors oui. Et figure-toi que j'ai une anecdote à ce sujet. Mais par contre, je suis jamais allé à Horizon B. Pourtant, j'ai passé beaucoup de temps dans cette zone, figurez-vous. J'ai passé plus de 4 heures dans cette... Et j'avais pas de DS, hein. Pas une, pas deux, j'en avais zéro. Deux DS, le parcu. Deux DS. Deux. Pas une. Deux, tu te rends compte? Mais si ça se trouve, c'est ça le plus beau dans l'histoire. Il est pas interdit qu'il y en ait une troisième dans son sac. Je veux dire, moi, j'ai vu qu'il en avait arrêté une, rangé et sorti une autre, tu vois. Et il y a eu un suspense, je me suis dit, putain, il a plus de batterie, il va faire comment? Il reste 2 heures d'attente. Il a sorti sa deuxième DS. Bon, si ça se trouve, il y en avait 3. Et ça, ça serait le plot twist incroyable. J'aimerais bien retrouver.
Si ça se trouve, la première, c'était en fait la troisième.
Peut-être que c'était la troisième. Peut-être qu'il en avait déjà déchargé 2.
Bon, je vais enchaîner, hein.
Ouais, fais ça.
Team de l'année, il s'est inspiré de personne pour faire Discoveryland. Sans doute. Moi, je vais vous demander de quel snob Team de l'année ne s'est pas inspiré pour concevoir Discoveryland. Est-ce qu'il s'est pas inspiré de Leonard Vinsky? Est-ce qu'il s'est pas inspiré de Michael Eisner, de Richard Fletcher ou de H.G. Wells? Il y a peut-être un piège.
Il y a peut-être un piège.
C'était un peu trop facile.
H.G. Wells, Leonard de Vinci, Richard Fleischer, Richard ou Michael Eisner.
Richard Fleischer, voilà.
Richard Fleischer. Lui, c'est pratique parce que pour le Covid, quand il fallait faire des sens de circulation, tu le mettais au sol.
Donne la direction. Et avec,
Richard Fleischer la direction.
Il travaillait à Autopia. Il fait les panneaux sur les côtés.
Et de Vinci, il travaillait au parking d'Autopia, il faut le savoir.
Et donc, je sélectionne les questions. Et 13 personnes ont répondu Michael Eisner. Bien sûr que Michael Eisner est snob, mais il n'a pas, a priori, pas inspiré Team de l'année pour Discoveryland. Alors que Richard Fleischer, je conçois que ce soit un petit piège. En fait, c'est le réalisateur de 20 milieux sous les mers. Et techniquement, le réalisateur de le Nautilus du Land ressemble énormément à 20 milieux sous les mers. Il a même été fait par le maquettiste du film, je crois, ou un truc du style, le décorateur. Et du coup, on peut pas vraiment dire qu'il a pas inspiré Discoveryland.
C'est vrai. Vu comme ça, c'est tout à fait vrai. Félicitations, en tout cas, vous êtes nombreux à avoir donné la bonne réponse. C'était bien Michael Eisner, le PDG Disney. Il y a longtemps.
J'ai vraiment lu la phrase du parcu avec l'accent snob. Ceci dit, je vois bien De Vinci en gros snob. Oui, j'ai designé un hélicoptère. Il est...
Bah oui, bah écoute.
Je me suis inspiré quelque chose pour ça, mais je dirais pas quoi.
Des séances assez.
Cette interlude visuelle que nous a fait Max, qu'on ne va pas vous décrire, ne sera pas disponible en podcast, et j'en suis navré. N'oubliez pas twitch.tv/elabette pour vivre ces événements en live avec le visuel. Max est
dans
flou, certes,
finalement.
Mais il fait des choses, et peut-être que c'est mieux ce soir qu'il soit flou. Question suivante, Curia.
Ouais, je vais vous demander à quoi correspondent les lettres et les chiffres près des étoiles au plafond de la dernière salle dans la file d'attente de Hyperspace Mountain. À quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond aux coordonnées de coffres cachés par Walt Disney avant sa mort, le fameux trésor Disney? Est-ce que ce sont des références et les prix des éléments achetés pour Discovery Mountain? Est-ce que sont les initiales mois et années de naissance d'Imagineers de Space Mountain? Ou est-ce que c'est absolument rien? Vraiment, faut arrêter de voir des références partout. Si je veux vous donner un indice, j'ai envie de dire que c'est une question d'Alex.
Alex qui met absolument rien, faut vraiment arrêter de voir des références partout.
C'est vrai que
j'ai passé une journée avec Alex. Tu ressors du parc, tu cherches des références partout.
Il y a deux personnes qui ont vraiment cru que Alex voulait arrêter de voir des références partout. Je suis désolé, malheureusement, vous ne connaissez pas Alex. Alex, c'est quelqu'un comme ça. Alex, il arrive, vous lui dites bonjour. Il dit, pourquoi tu me dis bonjour? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il est midi et demi, tu devrais dire bonne journée. Pourquoi tu me dis bonjour? Il ne fait pas beau d'abord.
Mais en vrai, 14 personnes ont trouvé la bonne réponse. Donc les gens ont plutôt bien compris la question, malgré nos trolls. Je pense qu'on a bien pris le temps de bien l'expliquer, que tu as bien fait, Curia, quand même. Mais ouais, ce sont effectivement les initiales, les mois et les années de naissance de divers Imagineers de Space Mountain.
Tout à fait.
C'est la fin de la catégorie sur les snobs qui aiment le steampunk. Bravo à vous. C'était tendu. Il reste encore deux catégories. Un petit point score.
Oui, c'est quand même, je trouve, un peu plus simple. On va faire le point score. Et donc, on va tomber sur Nautilus.
Oh, Nautilus,
il vient et qui clutch. Il arrive, il sort de l'eau. Il était là comme ça, en sous-marin. Et brrr.
En même temps, c'était une autre catégorie pour lui. Le steampunk, Nautilus.
La catégorie steampunk avec Nautilus, c'est presque de la triche à ce niveau-là. J'ai souvenir de certains quiz.
Alors le parcours, tu dis pas parce que toi tu es dans le négatif, non ?
Tenu par la Disney's Music Box, où au bout de la question 10, le top 5, le premier c'était celui qui était le moins dans les négatifs. Hein. Donc très franchement, nous on a des gens qui sont à presque 150 000 points. Ils savaient bien qu'il est quand même assez équilibré ce quiz.
Ça va encore, je pense. Je pense qu'il finit pas simple, mais ça va.
La catégorie suivante, on voulait faire un truc sur les contes de fées, mais on a changé d'avis, on est parti sur les contes des fées. Donc les aristos, hein, les contes avec un M, genre les aristos qui se font couper la tête ou ce genre de truc. On est contre les snobs et les aristos, vous l'avez compris, c'est un stream de gauche ce soir.
Avec Max et Nagla, c'est dire.
C'est dire.
J'habite Reims, pour rappel. Hein.
Le chat qui s'est fronté à ma tronche, du coup, j'ai des poils de partout. C'est très
donc, qu'est-ce qu'on appelle conte des fées ? En gros, c'est des gens qui étaient un peu balèzes ou quoi, et qui se sont cassés la mouille.
C'est ça. Donc, ça peut être, j'en sais rien, moi, Louis XVI, il s'est fait couper la tête, comme ça peut être, Sire, je sais pas, mes fesses, il a perdu tout son pognon, quoi. C'est un conte qui a...
Tout à fait. D'ailleurs, il y a une double conte avec ton truc, Nagla, puisque c'est son conte qui s'est cassé la tronche.
C'est vrai. Est-ce qu'on est prêt pour la première question de cette nouvelle
catégorie ? Je vais envoyer la
tienne. Catégorie, c'est parti. Dans la série My Little Pony Génération 4, qui absorbe les pouvoirs de trois princesses d'un coup ? Est-ce qu'il s'agit de T-Rex ? Est-ce qu'il s'agit de Twilight Sparkle ? Est-ce qu'il s'agit de Discord ? Ou est-ce qu'il s'agit de Pinkie Pie ? Soyez énervé, soyez inquiet, soyez attentif aux moindres regrets. Ne réfléchissez plus. Et oui.
Il y a une réponse alternative qui est ta gueule Nagla. Parce que la question de quel rapport avec Disney, quel rapport avec un de nos trucs, tout ça, j'ai envie de dire, on a fait un flan My Little Pony du coup au forceps, ça
vous
passe.
Vous avez compris que j'ai fait une question Picard, une question sur les chiottes en Allemagne. Enfin, moi, ma catégorie, c'est le random. Hein. C'est comme ça et puis c'est tout. Et c'est effectivement où il y a eu peu de réponses, mais des bonnes. Quatre bonnes réponses pour Twilight Sparkle.
La moitié des gens sont plantés quand même.
Il y a des gens qui sont plantés. Deux personnes sont parties sur Pinkie Pie, qui était une réponse crédible parce qu'elle est tellement cinglée qu'elle pourrait faire ce genre de truc. T-Rex et Discord sont deux méchants, donc ça paraîtrait être des réponses assez logiques. En plus, ils ont plutôt la capacité de faire ce genre de truc.
Rien.
Non, Discord, c'est aussi une appli, mais non. Et non, c'est Twilight Sparkle qui, dans le final de la saison 4, récupère les pouvoirs des trois autres princesses, et donc elle ne leur vole pas, contrairement à ce que la question pourrait faire penser, pour combattre, en l'occurrence, T-Rex, le centaure qui lui-même vole des pouvoirs, dans un combat qui est une complète référence à Dragon Ball Z.
Mais non.
Mais si.
Et ben, c'est alors, génial.
Tu verrais le visuel, tu dirais putain.
Vraiment,
c'est
affreux. Je suis sur le gestionnaire de stream sur Twitch pour regarder le live. Et au moment où Nagla a raconté toute l'histoire sur My Little Pony, on a perdu un follower. Ah. On est passé de 600 à 599 followers.
Pardon.
Je comprends.
Et ben, bye.
Est-ce que Max, tu veux enchaîner qu'on passe cette parenthèse sombre de l'histoire du stream ?
Bien sûr, tout à fait. Alors, lequel de ces faits présents dans Anastasia est historiquement vrai ? Est-ce que Rapsraf... C'est de la merde. Est-ce que Rasputin est ennemi juré d'Itsar Nicolas II ? Est-ce que la grand-mère d'Anastasia a mis une récompense pour trouver les survivants de la famille Romanov ? Est-ce qu'Anastasia... et l'héritière du trône de Russie parce qu'Anastasia avait un petit chien.
C'est assez fort parce que Max, il a loupé toutes les questions de Pauline. Mais genre,
il a vraiment. En plus, il s'est planté au moment où j'ai cliqué. Tu as vraiment au moment.
Ça n'a pas eu de passer. Donc, lequel de ces faits est historiquement vrai ? La grand-mère d'Anastasia a mis une récompense pour trouver les survivants de la famille Romanov. Anastasia avait un petit chien, Anastasia est l'héritière du trône de Russie, ou Rasputin est l'ennemi juré du tsar Nicolas II. Et bien évidemment, les survivants de la famille Romanov, ça n'a rien à voir avec la comique bien connue.
Anne ?
Oui.
Et, voilà, vous savez... Et vous savez, c'est quoi un canis?
Un petit
chien. <petit sien. rire>
Elle est la voisine de palier d'Anne Romanoff, bien vue par Korama. C'est pas une chanteuse, Anastasia? Presque.
Aïe, 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 les catombes.
Ah là 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 là. Pas une bonne réponse. Le
oh,
seul
attention,
fait,
il me rappelle.
Historiquement vrai, c'est qu'Anastasia, elle avait un petit chien. Et non, Rasputin est pas l'ennemi juré du tsar Nicolas II. Et non, la grand-mère d'Anastasia n'a pas mis une récompense pour trouver les survivants de la famille Anne Romanoff. Et non, Anastasia n'est pas l'héritière du trône de Russie.
Non,
c'est
ce
dur.
Elle n'est pas non plus une héritière du groupe Bonhomme.
Non plus. Quel fait.
Assez d'accord avec Louis qui nous dit que c'est comme un fait historique de merde. Et je le rejoins dans le sens où en termes de fait historique, c'est débattable. La définition.
Vraiment, Pauline, c'est la meilleure question.
Moi, j'aime beaucoup.
Le plus vicieux. J'adore.
Elle est complètement vicieuse, mais elle est drôle. Moi, j'aime bien. Bah oui, Anastasia, elle avait un petit chien. Foutez-lui la paix, elle a le droit. Pourquoi tout de suite on va chercher des histoires de complot, de meurtre, d'héritage, de machin? Ben non, elle a un petit chien.
Et c'est quoi un toutou bien élevé? C'est un politicien.
Je la connaissais pas.
Merci, elle est très bien. Elle est très bien.
Elle est validée, le politicien, elle est très bien.
Oh putain.
Max, c'est encore à toi de faire une question concentration.
Voilà, attends, laisse-le respirer là. Laisse-le respirer. En plus, on arrive avec du Alan Menken. Ça va être chiant déjà, personne va rien.
C'était vraiment la question que j'ai préparée pour que Nagla la lise et que ça le fasse chier. Je suis trop déçu.
Et Pauline précise, cela dit, c'est important que sa question, ça montre que le film est faux sur les grandes lignes. Historiquement,
oui,
ça vaut pas grand-chose. Et ça, c'est effectivement intéressant d'en parler.
Un petit chien dans les soins de nuit
Ben si, mais c'est présent dans le film.
Voilà.
C'est écrit dans la question.
Il y a un truc de vrai.
Bah oui, c'est le truc, c'était le but de la question, trouver le truc de. Je t'en prie, Max, enchaîne.
Oui, merde, c'est vrai, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris la question. Attends, faut que je comprenne les questions que je lis en plus, moi.
Question suivante, du coup.
Alors, est-ce que vous êtes prêts? Quelle musique savante de l'époque romantique a inspiré Alan Menken pour l'intro de La Belle et la Bête? Est-ce que c'est la danse macabre de Camille Saint-Saëns? Est-ce que c'est l'aquarium du carnet des animaux de Camille Saint-Saëns? Est-ce que c'est la symphonie numéro 3 en ut mineur avec orgue de Camille Saint-Saëns? Ou est-ce que c'est l'assassinat du duc de Guise de Camille Saint-Saëns?
N'oubliez pas que tous les mardis soirs, enfin un mardi matin sur deux, vous avez un podcast de la Disney's Music Box.
la réponse est déjà dans un des podcasts.
Et c'est probablement le fait le plus intéressant que vous apprendrez, bien sûr. Moi, rien que musique, ça va. J'ai déjà arrêté d'écouter.
Demain matin, on n'oubliera pas le podcast sur les ambassadrices, bien sûr.
Hein,
on passe de Camille Saint-Saëns aux ambassadrices, à Chantal Goya. C'est génial.
Bah oui, quelle musique savante donc de l'époque romantique a inspiré Alan Menken pour l'intro.
Merci le parcu. Non, non, il dit que c'est un très bon podcast, le dernier. Surtout l'intro.
Il parle de rien.
Ah putain, merde, oui, oui.
Bah, t'es dedans aussi, donc ça va.
Je pense, oui, bah oui. Bah, quoi, merci quand
merci
même.
Merci beaucoup, le parcu.
Non, il s'en bat la race de Disney Music Box. Attends, on parle de lui quand même, il est un peu snob, on l'a déjà dit. Enfin,
il a fait un compliment, l'insulte pas, dis-lui merci, wesh.
Oh, oui, mais le droit de. Quand même. Merci, le parcu, c'était cool.
Alors, quelle musique savante de l'époque romantique a inspiré Alan Menken pour l'intro de la
Belle et la Bête? C'est l'aquarium du carnaval des animaux.
Blou, 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 blou.
Qui est aussi. Le générique du festival de Cannes.
Tu peux nous faire un peu?
Ni na ni na ni na ni na ni na ni na.
Fais
le boulanger a notre pain. Pas du tout.
Mais pas ça, le prologue, l'ouverture.
Ah,
l'introduction de la Belle et la Bête. La partie avant la chanson. Oh là là.
Ah, mais le plein, 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 plein.
Tout à fait.
Ok, je l'ai. Là maintenant, je l'ai. Le rapport avec le festival. Ah la vache. Ok, je l'avais pas
dit. Oui, c'est ça.
Ah, ce qui est con, c'est que j'ai écouté le podcast de la Disney Music Box et j'avais pas compris.
Un très bon promo pour la Disney Music Box.
C'est écoutez, hein, c'est sans doute moi qui est con, hein, vraiment. 4 personnes ont trouvé la bonne réponse. 3 personnes ont cru que c'était la symphonie numéro 3 en ut mineur avec orgue. Et franchement, on les comprend.
Alors, non, vraiment, pour la grosse référence, la symphonie numéro 3 en ut mineur, c'est la chanson If I Had Words d'un chanteur de reggae. Et. C'est la chanson dans le film Babe. Voilà.
Très bien. Le film Babe a été cité. Et celui-là, on ne l'avait pas vu venir. Question suivante, c'est curieux qui reprend
la danse macabre, bien sûr, hein, sous plot.
Je vais vous demander lequel de ces 4 héros Disney n'est pas tombé en disgrâce. Est-ce que c'est Henry Ravenswood qui n'est pas tombé en disgrâce? Est-ce que c'est John Lasseter? Est-ce que c'est Michael Eisner? Est-ce que c'est Frank Wells? Ou est-ce que c'est Max de la Disney Music Box?
Ah, Max de la Disney Music Box, il est grave tombé en disgrâce.
Deux, pardon. Mais si du coup c'est John Lasseter, Michael Eisner, Frank Wells ou Henry Ravenswood. Il y en a un qui n'est pas tombé en disgrâce, qui s'est pas fait tège, qui a pas eu des gros problèmes, qui s'est pas fait cancel comme disent des gens de droite, qui n'est pas problématique comme disent des gens de gauche. C'est lequel?
Lequel de ces héros Disney? Est-ce que tous sont des héros Disney? Oui.
Alors je pense que on va dire que Michael sur certains Lester, on peut considérer que c'est des héros.
Michael Eisner, c'est un héros, mais il a fait du mal derrière. Quoi.
Ce qu'il a fait, oui, non, peut-être qu'il est tombé en disgrâce.
Peut-être.
Tu veux dire.
Mais peut-être qu'il a fait du mal, mais qu'après il est remonté, donc il n'est pas tombé en disgrâce.
Il a longtemps été considéré comme ayant sauvé, comme ayant porté Pixar et sauvé le Walt Disney Animation Studio. Est-il tombé en disgrâce?
Peut-être.
Frank Wells? Henry Ravenwood?
Je peux pas faire des blagues vraiment, vraiment compliquées.
Non, fais pas des blagues compliquées, non.
Frank Wells,
qu'on veut garder notre chaîne. Il y a des gens qui ont repris un sub, allez, Max, calme-toi.
C'est pas par rapport à Lester, promis. C'est pas par rapport
on veut
à
garder
Frank
la thune, Max.
Il est pas ouais, tombé, Frank Wells.
Bon, quoi, mais.
N'hésitez pas, ça vous coûte rien avec le sub, prime, hein, vraiment, le sub prime. Le prime Amazon.
Oh, on a des résultats assez intéressants. La majorité. Ah. Les plus nombreux ont eu raison, c'est effectivement Frank Wells qui est malheureusement décédé avant d'avoir des problèmes. Je sais pas s'il en aurait
eu. Il en aurait peut-être pas eu.
Il était vraiment très 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 bien considéré par tout le monde chez Disney avant de décéder en 93, je crois, dans ces eaux-là, 92.
Ouais. Avant le Roi Lion.
De Euro Disneyland. Et après, pardon. Michael Eisner, lui, il s'est fait quand même virer Manu Militari de Walt Disney Company. C'est compliqué de dire qu'il est pas tombé en disgrâce.
Notamment par l'un des derniers membres de la famille Disney qui pouvait
surtout avec
pas le
blairer. Derrière, avec ses déboires un petit peu, notamment avec Katzenberg et compagnie, c'était compliqué de dire qu'il est pas tombé en disgrâce. Ah. John Lasseter,
c'est
bizarre quand même.
C'est mieux que Lasseter.
Et Henry Ravenwood, disons qu'il a quand même séquestré sa fille, donc si vous trouvez que c'est ok, soit.
On rappelle que Henry Ravenwood est le seul personnage fictif de cette liste.
Tout à fait. J'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai même pas à faire les blagues un peu compliquées sur Frank Wells, le chat les fait avant moi. C'est génial.
Ah bon ?
Je vous remercie.
Mort en hélico, merci DaVinci. Ah ouais.
Non mais voilà, il a pris son envol, quoi.
Il a pas tort, Ange Rouge. Techniquement, Henry Ravenwood est décédé avant d'avoir des problèmes.
C'est vrai qu'ils sont tombés en disgrâce, là, mais c'est vrai. Je me rends compte que comme j'ai formulé ma question, on dirait un petit peu une question québécoise. Donc merci. le parc.
3 avril 1994, la mort de Frank Wells. Merci.
Je n'étais pas rien.
Dernière question de cette catégorie, les contes des fées.
Et après, on sera sur une catégorie un peu plus fun, effectivement. Donc là, je vais vous poser une question, Alex. Je crois que si vous avez déjà écouté la Disney's Music Box, vous connaissez la réponse. Oui. Parce que ces zinzins ont déjà tout balancé. Je vous demandais quel clip a été tourné dans Phantom Manor, le lieu où clairement un Aristo est mort. La Belle et la Bête par Patrick Fury et Julie Zenati. Je voudrais de réponses par Sarah. Enfin, je comprends rien. Le lion est mort ce soir du Roi Lion par Powo ou Dégage Spirit par Bryan Adams. Ce n'est pas le lion est mort ce soir. Deux personnes se sont trompées. Mais 8 personnes ont écouté les.
La Disney Box numéro 1.
Et la file d'attente.
Et la file d'attente.
Et la file d'attente.
Non, pour la file d'attente.
La file d'attente, on a parlé.
Ils ont effectivement eu plutôt bon.
Donc, plus voilà. La réponse, effectivement, c'était effectivement La Belle et la Bête par Patrick Fury. Ouais,
fait aucun
Zinati,
effort. Ils n'avaient même pas enlevé les toiles d'araignée sur les lustres.
Bah, ça leur manque.
Merci Max.
Voilà.
Donc j'envoie les résultats.
Alors oui, parce qu'on va changer de catégorie, donc où est-ce qu'on en est? Oh là 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 là, grosse percée de Valarette.
Renard et Valarette qui passe en tête.
Valarette en tête. C'est écrit dans le nom, presque. Qu'est-ce que je raconte? Suivi de Vincent 08 qui est en deuxième position. Nautilus est retombé à la troisième place. Et Bertrand est à la quatrième.
Périscope qui dépasse devant Bertrand.
Oui. Et Lyrx qui est à la cinquième place. Lyrx qui est à peu près toujours à la quatrième ou cinquième place. Valaret, la première fois qu'on la voit aussi haut, d'habitude c'était entre la quatrième et la cinquième, si je dis pas de bêtises. Non, il y a une fois où elle était deuxième ou troisième, je sais plus. Et Vincent 08 qui bouge un petit peu. Et Nautilus donc qui avait fait cette énorme remontada et finalement un tout petit peu redescendu depuis.
J'ai aussi à féliciter dans le podium, mais le podium du bas, la médaille de bronze est décernée à un snob. Je vous laisse deviner qui.
Est-ce qu'on peut rassurer Myriam qui nous dit mais pourquoi est-ce que vous parlez, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous parlez du livre de Secret Disney vous rigolez? Je l'aime bien sincèrement, il est simple, bien fait.
Il est simple, bien fait.
Cool, hein. Alex fait un super boulot. Oui, non, la blague c'est que.
On a ouvert une boutique et que Alex il se fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à peu de choses près. J'exagère beaucoup, mais pas nous.
C'est-à-dire que vraiment, on a lancé cette boutique et on aurait pu mettre un objet dedans. je me serais déjà moins fait chier à la configurer.
Que là, actuellement, avec tous les livres, Alex, il s'est payé le bus qu'il ramène chez lui ce soir.
Et quand on dit
n'hésitez
le bus,
pas à aller voir parce que le bouquin est
cool. Le mec il vient, il va rester chez lui après.
Et d'ailleurs, attendez, bougez pas.
Il va y chercher le livre.
Moi aussi, je veux le livre. Il est où?
Je l'ai le livre que j'ai pas payé, que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné aussi d'autre? Ah oui, j'ai gagné ce livre de Sébastien Roffa.
Il est là. C'est l'ancienne version, je crois qu'il est en train d'en préparer. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je dis rien. Mais La Chasse au Secret de Disneyland Paris, qui est là et qui est franchement un bouquin super. Donc voilà, c'est disponible sur boutique.elabette.com notamment. N'hésitez pas.
Et n'oubliez pas que si vous rajoutez un article d'une autre entité sur la boutique Utip, et ben vous avez le droit de recevoir un article d'une autre entité chez vous.
J'ai rien compris.
N'oubliez pas d'acheter autre chose que les livres d'Alex.
Ah oui, donc, n'hésitez pas. Effectivement, il y a d'autres trucs aussi dans cette boutique.
Alors, non, Fanny, je ne gagne pas tout. Hein. J'ai juste gagné aussi des places pour Fantasyland et puis un pouce-mousse. et j'ai gagné aussi des stickers Le Parcu qui sont collés sur mon saxophone.
Oh, Alex qui en plus nous dit qu'il ne lui reste que 15 livres en stock et que ce seront les derniers. Peut-être qu'il ne faut pas traîner, mais il y a un petit... Point d'interrogation.
Achetez les 15 très rapidement. on ramasse 10% de bénéfices chacun sur les livres.
C'est faux. La dernière catégorie, c'est la catégorie Imagine Air. comme le nom du Pass Navigo. Imagine R, pourquoi en deux mots imagine avec un R majuscule à côté? Parce que c'est pour les gens qui imaginent rien du tout, c'est les plagieurs en fait. On va parler vraiment de ceux qui imaginent rien du tout. Et,
ceux qui plagient, ceux qui adaptent un peu mollement.
C'est ça, les adaptations molles, les plagiats, les choses comme ça. On est sur la catégorie de la fraude un peu, hein. Vraiment, en termes d'imagination. Vous allez voir qu'il y a peut-être un peu de mauvaise foi dans tout ça. C'est un peu notre catégorie, il faut bien dire les choses. La première question, Corinne, t'es prêt?
Oui,
donc je la lance. Comment dit-on plagiat en allemand? Est-ce que ça se dit Copyrun? Est-ce que ça se dit Europa Park? Est-ce que ça se dit Kartoffel? Ou est-ce que ça se dit plagiat, tout simplement? Donc je répète, hein. Comment est-ce qu'on dit plagiat en allemand? Est-ce qu'on se dit Copyrun? Est-ce qu'on dit Europa Park? Est-ce qu'on dit Kartoffel? Ou est-ce qu'on dit plagiat, tout simplement?
Je trouvais que ton accent allemand avait un petit côté accent belge, mais côté allemand, en fait.
Bah, j'ai jamais vraiment... parler allemand, j'ai pas fait allemand, moi j'ai fait russe en LV2. Alors que rien, est-ce qu'on peut lancer les réponses? Je pense qu'il y a des Google Trad qui ont chauffé à mort pour essayer de savoir.
Et non,
la réponse c'était
Europa Park.
Plagiat, tout simplement. Il y a quand même deux personnes qui ont répondu Europa Park et je trouve ça drôle. Je vous remercie vraiment. Je vous félicite, je ne sais que dire. Mais non, ce n'est pas Europa Park, plagiat en allemand. Ce n'est pas Copyrun non plus, c'est bien tenté, mais Copyrun c'est vraiment copie, c'est copier quelque chose quoi. Après, mon allemand est un peu nul, mais en tout cas ça se situe plus autour de ça. Alors que j'ai bien vérifié, j'ai fait 3 checks pour être sûr. En allemand, plagiat se dit tout simplement plagiat. Bon, ça doit dire plagiat ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Je ne parle pas allemand. Mais en tout cas, ça se dit comme ça. Et personne n'a dit Kartoffel qui signifie pomme de terre.
Max, est-ce que t'es prêt?
C'est bon, ça.
Parce que ça fait déjà 3 fois que j'ai eu la question pour pas me planter. C'est la dernière question de Pauline. Il faut vraiment pas que je me plante
dessus.
C'est
maintenant ou jamais, Max.
Et j'ai la pression. Vraiment, j'ai la pression.
Oui. Et ce qui est bien, c'est que quand tu te mets la pression, en général, c'est là où tu te plantes le plus. On a fait une bonne dizaine d'enregistrements pour être sûr de ça. parce que c'est vrai.
Lequel de ces films animés par Dingo Pictures, célèbre pour ses contrefaçons, n'existe pas? Est-ce que c'est Winky le petit ours? Est-ce que c'est la belle princesse et l'homme bête? Est-ce que c'est Un prince pour l'Égypte? Ou est-ce que c'est Atlantide, le continent perdu?
Très joli. Il l'a bien dit, ça a l'air d'être très très bien.
Et ouais.
Donc,
et ouais.
Par contre, il y a Winky. Hein.
Donc il y en a un qui n'existe pas, sachant Winky, qu'elle précise qu'elle a traduit les noms depuis l'allemand a priori.
La belle princesse et l'homme bête, Un prince pour l'Égypte, Atlantide, le continent perdu. En fait, les Allemands, c'est les rois du plagiat, quoi.
C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est jamais sorti en France en anglais à la limite, nous précise Pauline. Merci beaucoup pour cette précision.
J'envoie les réponses.
J'ai presque envie de voir ça. Je pensais qu'il y avait pas que. Mondo World est connu pour ça, mais Dingo Pictures, je connaissais pas. Et c'est La Belle Princesse et l'Homme Bête qui n'existe pas. La contrefaçon donc de La Belle et la Bête, créée de toutes pièces par Pauline. La Belle Princesse et l'Homme Bête n'existe pas.
Effectivement. Atlantide, le continent perdu. Pour Atlantide, le monde perdu. C'est vraiment le truc où les mecs se sont dit, vas-y, on change juste un mot, pas les couilles.
Ouais, un peu, ouais. Attends, c'est Atlantide, l'empire perdu même, non? Ouais, c'est Atlantide, l'empire perdu. Et eux, ils ont fait perdu, le continent ouais. perdu. C'est encore pire.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'ambition, tu vois.
Donc, deux bonnes réponses sur La Belle Princesse et l'Homme Bête. Personne n'a répondu Un prince pour l'Égypte, hein, la contrefaçon du prince d'Égypte. Vraiment, c'est là aussi. Hein. Et trois personnes ont répondu Winky le petit ours. Vous l'avez, hein, c'était Winnie l'ourson. Et quatre personnes, le plus de gens se sont plantés sur Atlantide, le continent perdu. Question suivante.
J'ai encore deux mots difficiles à dire.
Il y a une musique, Nagla.
Il y a une musique, ouais. Alors que je me prépare, effectivement. D'abord la question et ensuite j'envoie la musique.
Quelle musique d'une attraction de contrefaçon retrouve-t-on dans ce mash-up?
Donc les possibilités sont... Max ?
Les possibilités sont Gechterrishka de Fantasialand, Piccolo Mundo de Europa Park, La Forêt de Plop à Plopsaland de Bâle, ou Canal Festival à F de Linge.
Bien sûr, Gechterrishka était incapable de le prononcer correctement, mais je m'y attendais.
Gechterrishka, il est pas simple.
Ouais,
mais... Canal Festival, Gechterrishka ou La Forêt de Plop. Plop.
On nous demande, on peut arrêter la musique.
Il y avait une équipe qui a envie de plier les oreilles.
Et fin de la musique. On félicite d'ailleurs. Merci Lolo Chips qui a demandé d'arrêter la musique. Est-ce qu'on peut dire qui a créé cette musique?
C'est moi. J'ai dû mettre une heure à la faire, je crois.
Magnifique. J'ai trouvé ça incroyable. Est-ce qu'on peut ne plus jamais parler de La Forêt de Plop? Ah, il y a un trauma du côté de Asturian, manifestement, pour La Forêt de Plop.
Oui, il y a une file d'attente d'une heure et demie, je crois, sur La Forêt de Plop. Et pourtant, c'est un chouette Dark Ride.
Ah bah putain, j'ai pas le souvenir de ce que c'est.
Si, c'est un petit Dark Ride avec des petits lutins, machin, c'est lutins.
D'accord.
C'est une Drumvlurt, mais sur un bateau.
Ah oui, mais j'aime pas, du coup.
Oh, c'est pas Drumvlurt, quand même. Quand même, Max. Max.
Moi, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas fait. Si vous avez beaucoup aimé la musique, vous la retrouverez aussi. Vous pouvez aussi en retrouver une sous, avec Pirates des Caraïbes et une avec quoi? Avec La Cabane des Robinson. C'est tout aussi à chier.
Un match-up entre les deux. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Donc, merci Max d'avoir créé ceci. Cette musique de contrefaçon, on l'a retrouvée. Enfin, quelle musique de contrefaçon retrouvait-on dans ce match-up?
On la réponse It's était... a Small World, l'original, et Carnival Festival à Efteling.
C'est ça, donc Small World et Carnaval Festival, c'était la bonne réponse. 6 personnes ont trouvé cette bonne réponse. Personne n'est allé sur Gechterrishka à Fantasyland, je pense que personne n'avait envie d'essayer de prononcer le truc de toute façon.
La musique de Gechterrishka, s'il y en a une, je me souviens même plus.
Moi, je vous invite. C'était un vrai cauchemar ce truc.
Je trouve assez incroyable que sur toutes nos questions à propos de contrefaçon et de plagiat, il y a à chaque fois une réponse Europa Park. Donc, quasiment. donc 2 personnes ont répondu Piccolo Mundo à Europa Park, c'était pas ça.
Ciao, et... ciao, Italia.
Sur la forêt de Plop.
Ah, tu prends le relais.
Tu peux prendre le relais, Curien.
Mais vas-y, prends le relais.
Il nous reste plus que 2 questions. On est sur les.
Le relais et colis.
L'antépénultième question.
On revient sur du Disney. Et la prochaine sur du Disneyland Paris. Donc, ces attractions de Disneyland Paris sont toutes inspirées d'attractions américaines. Ça, on le sait. Elles sont toutes inspirées par des attractions américaines. Mais il y a un intrus. Qui c'est que c'est l'intrus? À vous de cliquer dessus. Est-ce que c'est Phantom Manor? Est-ce que c'est Mickey et son orchestre Philharmonique? Est-ce que c'est Space Mountain de la Terre à la Lune? Ou est-ce que c'est Cinémagique?
Eh bien, tu sais que rien que j'ai la réponse sous les yeux, et c'est pas pour autant que j'ai compris pourquoi c'était ça l'intrus.
À Philharmonique, il y a un H entre le L et le A. Mais c'est mon côté connard aussi, ça.
Aïe.
Je m'en bats la race.
C'est une attraction de merde, de toute façon.
Parce qu'on fait pas forcément l'intrus, cela dit. Mais c'est peut-être que
faute,
c'est l'intrus.
C'est pas la faute qui fait que c'est une intrus.
C'est vrai qu'on pourrait dire.
C'est son emplacement qui est intrusif.
Il y a qualité et il y a Philharmonique, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça pourrait marcher. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit ça le raisonnement. Faut réfléchir.
Tu sais que je pige toujours pas pourquoi.
Eh ben, je vais t'expliquer. Bah, c'est
j'adore avec impatience.
La plupart des gens ont trouvé, donc c'est effectivement Cinémagique. Ce n'est pas Space Mountain de la Terre à la Lune, et ce n'est qui a eu quand même trois réponses, et ce n'est pas Philharmonique qui a eu une réponse. Oui, on pouvait croire que c'était un intrus, c'était à chier, mais c'était pas le cas. Non, alors pourquoi c'était Cinémagique? Parce qu'en fait, il y a plein de raisons. La première, c'est que ce n'est pas une vraie attraction aux US, en fait. Elle a été inspirée par une attraction aux US. Mais il n'y a pas de Cinémagique aux US, il n'y en a eu qu'un de Cinémagique, il était en France. Et ensuite, l'attraction qui a inspiré Cinémagique en réalité, c'est The Great Movie Ride à Epcot. Mais quand ils ont fait The Great Movie Ride, ils voulaient en faire un pavillon cinéma en gros à Epcot. Et sauf qu'en fait, dans le Future World, donc le côté futuriste de Epcot, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grave manière d'en faire un parc. Donc ce n'est pas d'une inspiration directe mais indirecte, puisque derrière ils en ont refait une attraction au complet.
D'accord, rigolo.
Ouais, grave.
Quel connard. Ok, et donc la bonne réponse était effectivement Cinémagique. Bravo à ceux qui ont trouvé, vous êtes largement majoritaire contrairement au gouvernement. La dernière question, peut-être que rien.
Je vais vous demander lequel de ces éléments existe dans tous les parcs Disney.
Tous les parcs Disney. C'est la dernière question d'Alex, hein, pour rappel.
Est-ce que c'est une bague dans le sol des attractions de type Haunted Mansion? Est-ce que c'est des souterrains sous tous les parcs pour permettre aux cast members de se déplacer? Est-ce que c'est des petits bonshommes trop mignons qui ressemblent à des cast members au niveau des stands de popcorn? Ou est-ce que c'est une chambre dans la plus haute tour du château? En réalité, si on réfléchit, il y en a pas mal qui se font par élimination.
C'est vrai.
Si on procède par élimination, déjà, on peut se dire que quand même une tour dans la plus haute, une chambre dans la plus haute tour de notre château, c'est assez étriqué.
Bah. Vas-y, donne la réponse, on dira rien, vas-y.
J'ai dit que c'était assez étriqué, j'ai pas dit que c'était impossible.
En vrai, on a eu un podcast avec Morgan Artificier qui nous a dit qu'il faisait ses plus grandes siestes à l'abri de ses managers dedans. Ah non, merde, ça, on l'avait coupé. Ah merde. C'est faux, je plaisante, c'est une blague. Et la bonne réponse, c'était la réponse beaucoup trop longue qui passait pas. Les petits bonshommes trop mignons qui ressemblent à des cast members au niveau des stands de popcorn.
Et oui, parce qu'il n'y a pas de bague dans le sol des attractions de type Haunted Mansion, il n'y a pas de bague dans le sol de Phantom Manor, ni dans Mystic Manor.
Non.
Et si Alex est encore là, il va dire que c'est son secret préféré.
Et en réalité, on pouvait tout simplement éliminer la question en se disant qu'il n'y a pas de Haunted Mansion à Shanghai du tout.
C'est la fin.
Ton saxophone et tu le mets dans ton 1. Bon.
De ce quiz, Curien, je te propose d'afficher les grands résultats. Et félicitations Vincent qui l'emporte.
Bravo Vincent. Bravo Vincent.
Il y a une musique un peu stylée qui va arriver histoire de fêter tout ça dès que je la trouve, hein, vous inquiétez pas. Ça va être trop bien. Et ben ce sera Happy Anniversary au pif, voilà.
Quoi ?
Écoute, il fallait une musique, je l'ai trouvée. Donc Vincent remporte la partie avec 230 000 points, c'est énorme, il a 40 000 points d'avance sur Valarette qui se trouve à la deuxième position. Qui elle-même est devant Valar, qui est placé lui à la troisième position. RIP pour Bertrand, qui a disparu de ce quiz. Hélas, il a été dans le top pendant très longtemps, mais finalement, il ne s'y est pas maintenu. Nautilus, lui, reste bien placé à la quatrième position, au pied du podium pour obtenir un cadeau, c'est dommage. Et Lyrx, qui complète avec 114 400 points. Est-ce que tu peux nous donner quelques autres facts, genre le score du dernier, genre où se trouve combien de participants, tout ça?
Bertrand est passé 6ème, hein. C'est pas non plus honteux. Hein,
bravo à lui, c'est dommage.
Il a quand même eu 102 000 points. C'est solide de rester au-dessus des 100 000 avec les questions un peu connes qu'on a mises. On a Parcorama, bon, grand podcaster bien sûr, qui finit 10e. Bon, 10e à 49 000 points. Ouais, ça va.
Je pense
encore
que
une défaite
lui,
du Belge.
Les questions intelligentes, il les avait. Les
on
autres,
demande ce qu'il a le seum, mais c'est tout. En tout cas, Vincent, lui, n'a pas le seum. Europa Park en plagiat l'a tué, le pauvre Bertrand. On a Alex Parent Live qui est 13e, malheureusement, qui s'est peut-être rendu compte à un moment qu'il devrait peut-être pas participer parce qu'il a quand même écrit au moins cette question.
Et si Alex avait fini dans les 3 premiers, est-ce qu'il se serait acheté lui-même son livre?
Peut-être.
Il se serait acheté son livre. Il aurait demandé qu'on achète un livre pour toucher la thune.
Peut-être. C'est possible.
Et sinon, non. Bah, je pourrais shamer le parcu qui finit avec moins 49 000 points. Oh, bon, finalement, l'alternative du parcours à moi.
Dur.
Bon, ça va. On a 30 participants au total.
La dernière personne a combien de points pour se situer à peu près?
Moins 106 000.
Moins 106 000. Donc on est entre 230 000 et moins 106 000. Donc en fonction de vos points, vous pouvez voir à peu près où vous êtes. Combien on a de personnes en tout et combien on a de personnes au-dessus des. Enfin, dans le positif, tout simplement.
Alors on a 30 personnes en tout et ouais. On a 16 personnes dans le positif.
Ah, donc c'est moitié-moitié positif-négatif. Assez équilibré finalement. Félicitations à tous. J'espère que ce quiz vous a plu.
C'est positif.
Vincent08, ne manquerons pas de te contacter évidemment pour te demander ce que tu veux dans la boutique ou.
Bah, dis-nous ce que tu veux dans le chat.
Autre chose, si t'es dans le chat, effectivement, n'hésite pas à nous dire si tu as déjà une idée. La même chose pour Valar et pour Valarette.
Si vous voulez faire un live avec nous, pourquoi pas.
Ça peut être ça, le live de la DC Music Box est dispo parmi les récompenses. Il y a aussi les possibilités de participer à Flan ou à Rien que d'y penser, par exemple. Il y a aussi des mugs, des t-shirts, des suites. Un livre, le saviez-vous, Les Secrets de Disneyland Paris, il est toujours disponible. Vous avez aussi Curien qui a mis en jeu les fun maps qu'il a toujours chez lui. Où on peut aussi
une bière sur le parc si vous voulez aussi.
Faire une chanson, c'est quelque chose qui peut se faire.
On peut faire une chanson, on est nombreux à savoir chanter, à savoir se bouger le cul.
Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous voulez, sinon éventuellement on en reparlera un peu plus tard, tranquillement. J'espère que ce quiz vous a plu.
Encore désolé pour le petit bug sur la séquence Star Wars Mark Hamill.
Oui, ça c'est dommage, effectivement, mais bon, c'est pas très très grave. Je remercie bien évidemment en tout premier lieu et très fort Alex et Pauline qui sont pas présents avec nous mais qui ont participé à la rédaction des questions de ce quiz. Merci beaucoup. Ils ont tous répondu présent, mine de rien assez vite parce que ça s'est.
Le GIF, t'en fais pas, je le dirai à personne, t'inquiète.
Je vais pas dire que ça s'est terminé à la dernière minute, mais. Voilà, on a quand même galéré, mais. Ils ont répondu présents alors qu'on les a prévenus très très tard et ça c'est très très cool. Merci bien entendu Max, toi aussi pour tes questions. Merci Curien pour tes questions et pour avoir rentré toutes les questions dans le système de quiz cet après-midi. Parce que t'en as chié, je le sais.
PDF là, hein Max.
Comment? De quoi? Genre.
Il y avait les gens organisés, il y avait les autres. Hein.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là,
Effectivement, on a un Discord, Myriam, si tu ne le sais pas.
Tout à fait, discord.rienquedipenser.com, discord.elabet.com, ça fonctionne aussi. Ne pas hésiter à nous rejoindre, on s'amuse bien en règle générale. Et dans les autres moments, on s'énerve sur des trucs. C'est bien aussi de s'énerver sur des trucs. Le nouveau lien Utip a été placé, donc n'hésitez pas, c'est là que vous avez bien évidemment la boutique incroyable qui nous permet de nous faire de la thune sur votre dos. Je veux dire que vous vous fassiez plaisir tout en nous soutenant.
C'est boutique.elabet.com, c'est pas Utip, bah forcément, Max il met n'importe quoi.
En même temps, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. J'ai bégayé sur environ 12 questions, j'ai bégayé sur mon clavier.
Vous avez bien entendu le Patreon qui existe aussi. Bon, je vais pas refaire la pub de la totalité de ce qu'on a. Un super wiki par Valar également. Je précise quand même que ceci était donc un beau quiz et la bête, un quiz du label tout entier. Et ça, c'est le plus important peut-être. C'est que peut-être qu'on peut faire un tour de présentation de tous les éléments de ce label. Je pense que c'est important.
Oui. On commence par les derniers arrivés.
Ok.
C'est moi.
Vas-y, Max.
Et ben, bonjour, je m'appelle Maxime.
Bonjour.
Et, je vais pas faire l'œil du podcast. Non, ben, moi, c'est Maxime. J'ai le site Musicland qui ne fait partie du label Et la Bête, mais qui voilà. Et okay, cool. En vrai, je suis tellement présent partout maintenant, je pourrais dire oui. J'ai aussi le live podcast de la Disney Music Box, dont demain le podcast sur les Oiseries qui sort demain matin, 7h.
Manquez pas ça demain matin.
Sur le
matin.
Lien que j'ai mis, musicland.home.blog.
Musicland.home.blog, un podcast directement. C'est le podcast du live. C'est le live, mais sans les problèmes techniques. Franchement, écoutez le podcast, c'est vachement bien.
Sous-entendu,
je déconne. C'est vachement bien de l'avoir en live aussi. Moi, je préfère l'expérience live parce que c'est plus drôle.
Et puis voilà. Ensuite, la personne qui est arrivée avant, c'est Pauline.
Pauline, donc, qui est avec nous sur. Enfin, qui est avec moi en l'occurrence sur Faut l'animer, le podcast qui parle de films d'animation désormais. On l'a commencé avec Curien, désormais c'est Pauline et moi qui sommes à la présentation. Et le prochain, c'est la semaine prochaine sur. Ça se passe dans l'espace, mais c'est interdit de parler de Star Wars.
Il a un super générique, je trouve, ce podcast.
Ouais, c'est vrai. Je sais pas qui l'a fait.
Et le meilleur podcast, c'est le 42, je crois.
Ouais, c'est possible, ouais.
Curien n'a toujours pas écouté.
Il a fait un Ramdam le prochain, oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, on avait bah, évidemment le Alex de Secret Disney qui est avec nous. Curien, est-ce que tu peux présenter Secret Disney?
Oui, bien sûr. Secret Disney, la référence des Secrets Disney. Si vous voulez être YouTuber, si vous voulez lancer dans une activité de production de contenu et ne pas vous embêter à chercher des trucs, allez sur Secret Disney, pompez tout et faites comme si c'était à vous.
TikTok, ça marche bien aussi.
Vraiment les pires personnes qui font ça. C'est terrible, mais c'est vrai. Secret Disney, c'est peut-être l'un des sites les plus pompés de l'histoire. Tout le monde
va piquer Disney avec un S.
Mais ouais, donc Secret Disney, allez-y. Les meilleurs secrets de Disneyland Paris sont disponibles sur le site. C'est très bien d'avoir le bouquin aussi, hein, mais sur le site, c'est très sympa. Et enfin, eh ben,
le site il est gratuit.
Rien que d'y penser, oui, c'est vrai. Rien que d'y penser, bien entendu, le podcast sur Disneyland Paris, sur les parcs, sur Disney en général et sur les rotules. On a besoin de vacances.
Non, ça va.
Non, ça va. En plus, on prépare plein de trucs avec Avengers Campus, là, les amis.
Tout ça, ça va être bien.
Avengers Campus, là, oh là là.
Excellent.
Oui, mais t'es dedans, c'est pour ça.
Votre invité est génial. Très intéressant, les gars. Très, très intéressant.
Merci à tous donc d'avoir suivi ce live. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, demain matin, la Disney Music Box, le podcast sur les ambassadrices Disney. Demain soir, ouais. Ici, à cette place, on fera le débrief de Obi-Wan épisode 5 avec Valar. Et j'ai pas demandé que rien, t'es là?
Oui, bien sûr.
Et ben avec Curien aussi, on se fait plaisir. N'hésitez pas à venir vous aussi pour parler de l'épisode 5 de Star Wars. C'est le dernier avant le grand final, l'épisode 5 de Obi-Wan, évidemment. Et jeudi matin, la rediff de ce quiz monté par Max, que je remercie encore bien bas parce qu'il me retire une grosse épine du pied, qu'on va diffuser sur Rien que d'y penser, sur Faut l'animer. Et je sais pas si vous allez diffuser sur Disney Music Box.
Oui, si, allez,
on
peut gratter un peu
du... On a à l'heure, on n'est pas la Music Box.
Ah oui.
On a une épine de faire aujourd'hui, franchement.
Très bonne semaine à tous, et à bientôt. Bye tout le monde.
Au revoir, bisous.